Bonjour chers auditeurs, Nathalie au micro pour vous accueillir dans cette deuxième partie de matinale qui est un peu une matinale musicale en ce moment. De 9h à 10h, vous avez eu des super sons, des très bonnes musiques et puis quelques petits reportages, des petits prêts à diffuser comme on dit. Voilà, des petites infos qu'on vous a passées en matinale. Là je suis donc pour cette deuxième heure avec un sujet, on va parler d'un sujet brûlant. J'en profite, je suis un peu dévariée parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a vraiment une matinale. Pour saluer Léonie qui nous accompagne aujourd'hui. Et donc, dans ce matin du mercredi, voilà, je voulais donner la date, on est le mercredi 26 avril. De mercredi 26 avril, je suis en compagnie de Jean-Marc Froire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alix, j'aurais dû dire Alix d'abord, hein, tu vois, je suis mal élevée. Alix Bacchineau, bonjour Alix.
Bonjour Nathalie.
Et avec Pierre Ripstein qui nous a rejoint hier pour nous aider à traiter ce sujet difficile. Le sujet Bonjour. Difficile, ça va être quoi, Jean-Marc? De quoi tu m'as alerté?
Eh bien, on voudrait saisir les auditeurs du cas de trois Afghanes qui ont été déjà emprisonnés, torturés, peut-être violés, qui ont réussi à sortir sous caution et avec la promesse de ne plus rien faire, mais promesse qu'elles ne tiennent pas, bien évidemment. Ce sont des femmes qui se battent pour le droit des femmes en Afghanistan et vous imaginez l'immensité de ce combat, le courage fabuleux qu'elles ont, et c'est ça qui nous a touchés, pour se battre, pour essayer d'obtenir un droit d'asile, enfin pas pour essayer, pour obtenir un droit d'asile pour ces trois femmes en France.
Peut-être que, ou toi ou Alix, vous pouvez nous faire un petit rappel, je crois que c'est toi qui as été désigné, Jean-Marc, pour nous faire un petit rappel de ce qui se passe donc depuis le retour des talibans en 2021, le départ glorieux de Biden, si je m'en souviens bien, hein, des armées américaines qui sont parties en une journée, hein, c'est ça? Ça a été pas très...
En gros, il y a eu les accords de Doha le 29 février entre les États-Unis et les talibans, accord approuvé par l'ensemble de la communauté internationale, qui prévoyait le retrait des troupes US. Bon, rappelons-nous que l'Afghanistan a quand même été occupé, toujours de façon infructueuse d'ailleurs pour les occupants, par les Anglais, jadis, par les Russes, ensuite par les Américains et les forces de l'OTAN, ce qui fait qu'il y a un pays en guerre. Et que dans le jeu des puissances internationales, il faut quand même aussi se rappeler que des organisations islamistes avaient été à l'époque armées, équipées par les Américains, puisqu'ils se battaient contre les Russes. À part qu'ils ont créé de véritables diables, dont Al-Qaïda, qui s'est retourné contre eux. Et donc, dans ce retrait des troupes américaines, il y a un accord qui était dit de « on vous laisse ». Vous débrouillez entre Afghans, mais vous nous promettez de ne plus faire d'actes de terrorisme sur le territoire américain. Ailleurs peut-être, pas de problème, mais pas sur le territoire américain. Vous voyez, c'était déjà un petit peu une certaine du Trump avant l'heure. Hein. Voilà. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des batailles, des guerres entre différentes factions afghanes. Le gouvernement un peu fantoche qui était en place a été très rapidement balayé. Vous vous rappelez, à la télévision, on voyait les avions décoller de l'aéroport de Kaboul avec les gens qui couraient pour quasiment se raccrocher aux ailes des avions, tant les gens sentaient que les talibans, ça n'allait pas être la fête pour tout le monde et notamment pour les femmes. Ce régime qui s'est installé très rapidement, donc, qui est un régime qu'on qualifie de théocratique et de misogyne, totalement, comme on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité. Concrètement, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Ça s'est fait très rapidement. Les femmes ont été retirées de plein d'emplois importants. Il n'y a plus le droit de sortir sans homme. J'ai un souvenir personnel, notamment quand j'habitais à Paris, de visiter un centre d'accueil de jeunes réfugiés. Je demande aux responsables, mais comment se fait-il qu'il n'y a que des hommes? Et la réponse, eh bien, quand tu es une femme en Afghanistan, tu ne peux pas sortir, donc tu ne peux pas t'évader. C'est déjà sortir en tant que jeune réfugié, c'est compliqué, mais une jeune femme, c'est encore plus compliqué de sortir. Voilà. Donc, pas droit de sortir sans un homme. Fermeture des salons de maquillage qui était un des seuls endroits où encore les femmes pouvaient discuter entre elles. Et puis, ubuesque, modification de l'urbanisme jusqu'à fermer les fenêtres qui donnent sur la route pour pas que les femmes puissent regarder dehors. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont réduites à... C'est une négation totale de leur humanité. Elles sont réduites peut-être à faire des enfants, et encore, on ne sait pas trop. Enfin, c'est une réduction totale des droits de la femme et même de droits humains fondamentaux.
Pierre, à la CIMAD, vous en avez entendu parler justement de cette dégradation en trois ans entre l'espoir qu'on ait que ça soit des talibans plus soft et si ça peut exister et ce qui est aujourd'hui au bout de trois ans, est-ce qui se passe?
Alors on a entendu parler puisqu'on reçoit
beaucoup d'Afghans depuis 3 ans. Il y a beaucoup d'Afghans à Montpellier, il y a beaucoup d'Afghans qui sont arrivés. D'abord, c'était des hommes, très rarement des femmes, qui arrivent à quitter le pays. Il y en a quelques-unes. Hein. On a quelques-unes qui sont des étudiantes qui, par exemple, avaient déjà étaient déjà à l'extérieur au moment de l'arrivée des talibans le 15 août 2021. Mais on a beaucoup d'hommes qui ont fait des traversées difficiles, qui sont arrivés là. Et qui maintenant, nous, ce qu'on fait de plus en plus à la CIMADE ces derniers temps, c'est des réunifications. C'est-à-dire, les hommes sont arrivés et font venir leurs femmes. Et donc, il y a des femmes afghanes qui arrivent, mais par réunification avec leur mari ici. Mais oui, beaucoup, beaucoup.
Dans cette description globale, il y a quand même des Afghanes qui... Je lis votre communiqué presque mot pour mot, mais des Afghanes qui résistent, qui combattent. C'est le mouvement spontané des femmes afghanes, donc le SMAW. Vous connaissiez, Pierre, ce
Non, je savais qu'il y avait des mouvements d'opposition des femmes qui se faisaient dans la clandestinité. Et vraiment, elles sont très courageuses, ouais. Puisqu'elles risquent énormément.
Donc ça s'est constitué donc à l'arrivée du pouvoir de ce régime misogyne. Vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce SMAW ? Je ne sais pas comment on dit. SMAW ?
Non plus, en anglais, je ne sais pas.
Ouais, voilà. Voilà.
Moi, je suis membre du Parti des Travailleurs et donc on organise des réunions internationales puisqu'on est membre d'une internationale ouvrière. Et on a organisé en 2022 une conférence internationale de femmes travailleuses. C'est dans cette conférence de femmes travailleuses que des militantes afghanes ont fait un appel à l'ensemble des organisations ouvrières, démocratiques et féministes du monde entier pour les aider. Vu la situation qui leur était faite, où elles appellent justement à constituer un comité international de défense, demander le soutien des principales organisations pour obtenir le droit d'asile, lancer une campagne pour la libération des militantes qui ont été emprisonnées, parce qu'elles ont osé à plusieurs reprises défiler dans les rues de Kaboul avec des pancartes « Pain, paix, liberté », avec bien évidemment des descentes immédiates des talibans qui les ont non seulement molestées, arrêtées, mais qui en plus ont des prisons hors gouvernementales, entre guillemets, clandestines, dans lesquelles bien évidemment le pire se passe. Et Alix parlera ensuite du cas particulier des trois Afghanes qu'on a pris un peu sous notre protection, entre guillemets. Et vous verrez un peu qu'à travers ces trois parcours, c'est assez révélateur de ces femmes qui, effectivement, mènent un combat très important et qui, ce qui m'a le plus frappé, c'est que récemment, à l'occasion du 8 mars l'année dernière, elles ont tenu des conférences clandestines à l'intérieur de l'Afghanistan et elles en appelaient à la solidarité avec les femmes palestiniennes. Et ukrainienne. C'est quand même assez fabuleux, c'est-à-dire de se retrouver dans un régime dictatorial comme ça et en appeler à la solidarité internationale. Donc voilà, ça c'est personnellement, ainsi que mon parti, ça ne me laisse absolument pas insensible et donc ça donne une pêche extraordinaire pour se battre pour ces femmes.
J'espère que ça va pas arriver en Syrie, parce qu'on ne sait pas ce que ça a donné la Syrie dans les mois à venir. Ouais. On va peut-être en parler un peu plus, Alix, de ces femmes. Donc en parlant rapidement, ce sont des femmes qui sont... Des femmes cultivées, c'est des femmes qui ont déjà, il y en a une qui est enseignante, l'autre qui est médecin, c'est des femmes qui ont des parcours déjà importants derrière elles.
Voilà, c'est des femmes qui ont fait des études et donc qui se sont constituées un mouvement spontané des femmes afghanes, donc en anglais Spontaneous Movement of Afghan Women. Et donc elles ont connu la période... on va dire, où elles ont récupéré les droits des femmes pendant 20 ans, quand l'armée américaine occupait l'Afghanistan et avait essayé d'installer un gouvernement plus ou moins démocratique.
Je m'en rappelle, parce que je vous interromps et on revient sur le portrait des femmes après, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une série sur Canal+, qui s'appelait Kaboul, je ne sais pas quoi, et qui racontait justement la liberté qu'il y avait eu et par contre, les militaires qui étaient quand même légèrement... plus que le soudoyer, etc. Et la fortune qu'ont fait certains Français. C'était un Français qui arrivait et qui ouvrait un bar où tout se passait à Kaboul. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Pas Kaboul Express, mais c'était un nom comme ça. Vous en rappelez pas de cette série ? Vous pouvez regarder parce que aujourd'hui, c'est un objet, cette série, parce que c'est un Kaboul libre. Enfin, le plus libre que ça pouvait, en tout cas. Je vous redonne la parole.
Et oui, c'est ça, c'était libre parce qu'elles avaient, avec l'arrivée des Américains, elles avaient pu, ce qui a été bénéfique, c'est qu'elles avaient pu à nouveau étudier, travailler, conduire, faire tout ce qu'elles avaient perdu pendant de 1996 à 2001 quand les talibans étaient arrivés au pouvoir. Et donc, donc je ne sais pas, je vais parler de chacune d'entre elles.
Oui, d'ailleurs, on va la première, donc c'est Osra Zafar.
Osra Zafar, qui est à la tête du comité d'organisation donc, du mouvement spontané des femmes afghanes. Donc elle a organisé avec d'autres femmes des manifestations pacifiques à Kaboul et dans d'autres provinces. Donc elle a organisé et coordonné. Elle a été arrêtée par les talibans le 18 octobre 2022 et le lendemain, ils ont procédé à une perquisition chez elle. Et là, bien sûr, ils ont retrouvé des documents compromettants pour elle, malheureusement, et pour les autres femmes qui participaient à ce mouvement spontané. Et donc, elle a été emprisonnée pendant 21 jours. Pendant son emprisonnement, bien sûr, elle a été torturée, elle a subi des interrogatoires. Et ce que cherche la police des talibans, c'est de savoir qui paye ces femmes, quel gouvernement occidental les...
Par qui elles sont aidées.
Voilà, par qui elles sont aidées. Or, malheureusement, ils n'arrivent pas à savoir qui, parce qu'en fait, il n'y a personne. C'est un mouvement spontané, voilà, c'est normal, elles se battent. Pour leurs droits et pour la liberté.
Il faut préciser que ce sont des femmes, la plus jeune à 30 ans, voilà. À 94,
oui, c'est vrai.
La plus âgée à 38 ans, ce sont des femmes jeunes, en pleine puissance, je veux dire, c'est la trentaine, c'est
impuissant. elles sont encore jeunes et elles ont connu des moments meilleurs. Et en fait, elle a été libérée donc 21 jours après. Et maintenant, elle est toujours... depuis ce moment-là, elle est toujours menacée.
Cachée.
Voilà. Elle est cachée. On lui a interdit de participer à ce genre d'activité, ces manifestations. De toute façon, maintenant, ils ont mis en place une loi en août 2024 qui s'appelle « Promouvoir la vertu et prévenir le vice ». Et donc, c'est cette fameuse loi dont parlait Jean-Marc, où là, elles sont quasiment, elles sont complètement interdites de parler. Elles n'ont pas le droit de parler dans l'espace public. Elles n'ont même pas le droit de réciter le Coran à voix haute. Et elles ont aussi interdiction de parler entre elles. Voilà. Donc, on en est à une. Elles sont des objets, en fait. Elles n'ont même plus le droit de parler. Donc, c'est vraiment
sans le son.
Affreux. Ouais. Voilà. Et donc, nous aussi, c'est pour ça qu'on relaie leur appel. C'est parce qu'on est leur voix, en fait. Et donc, Osra, comme les autres, elle n'a pas pu fuir. Elle reste en Afghanistan. Et elle est toujours cachée en Afghanistan. Elle vit dans la clandestinité.
Après, il y a Rohina Zalal Khalil, qui donc, elle est la plus jeune, qui est née en 94, qui est docteur en médecine.
Voilà.
Elles avaient toutes quand même des trajectoires de féministes déjà là-bas. C'était des femmes qui étaient déjà plus féministes que peut-être la femme moyenne afghane.
Oui, bien sûr, elles avaient déjà des trajectoires de féministes. Donc, elles se disent féministes et défenseurs des droits humains. Donc, Rohina, elle a un bachelor en médecine et chirurgie. Elle travaillait donc comme médecin à l'hôpital de Kaboul. Et comme Osra, elle s'est fait arrêter par la police lors de manifestations, donc en octobre 2022. Et donc, pareil, elle a été torturée, interrogée pendant 21 jours.
Et donc, pour l'instant, elle aussi est cachée.
Elle aussi, elle vit cachée. On les accuse de choses qui sont fausses et elles sont obligées de se cacher et de vivre dans la clandestinité.
Donc il y a quand même un réseau qui peut cacher ces femmes. Il y a un réseau de solidarité à l'intérieur de l'Afghanistan quand même, parce que elles ne sont pas dénoncées pour l'instant.
Non, elles sont... alors après, ce qu'il en est depuis...
Ce qu'il en est dans la réalité, c'est un peu difficile à savoir.
Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui se passent de façon clandestine et cachée. Notamment, il y a des écoles secrètes qui sont mises en place pour les filles, pour que les filles quand même continuent, les filles et les jeunes femmes continuent à étudier, à apprendre à lire, à écrire et à être conscientes qu'elles ont des droits. Parce que si, en fait, on vous apprend dès votre naissance que vous n'avez même pas le droit de parler et sortir sans un homme qui est votre père, votre frère, votre mari, en fait, vous n'avez même plus conscience que vous avez des droits. Et il y a aussi une radio secrète
oui.
qui s'appelle Radio Begum.
Il y en a une qui émet de Paris. Il y avait une radio qui émettait de Paris à un moment, justement, d'accord. Là-dessus.
Celle-là, je sais plus d'où elle émet, mais et en fait, elles ont des cours donc sur cette radio. Elles ont aussi des conseils en santé, aussi des conseils religieux. Et voilà, pour les tenir informées de l'extérieur.
Et la dernière, elle a été découverte justement dans ce que vous disiez quand on a fouillé l'appartement de la première dont j'ai dit, d'Ozra. Et donc c'est Farzia Halemi, qui est défenseur des droits humains. Il faut changer.
Défenseur.
Hein. Défenseur.
Voilà, elle est défenseur des droits humains. Donc bon, on n'a pas sa profession. Mais donc elle a été découverte par la liste que les policiers ont ouvert chez Ozra. Et ils ont aussi découvert sur son téléphone un numéro provenant d'Allemagne. Donc ils l'ont interrogé pour savoir d'où venait ce numéro. C'était juste qu'elle a de la famille en Allemagne. Voilà.
Donc merci pour ce portrait de ces trois militantes. On comprend vraiment que leur arrestation et les jours de captivité, ça a été une horreur, que la vie dans la clandestinité aujourd'hui n'est pas très simple. Juste avant notre première pause musicale, comment l'histoire de ces trois femmes est arrivée au comité 34 ?
Alors, on a une antenne départementale du comité international de défense des femmes à Vianne. Donc j'ai simplement pris mon téléphone à Paris pour appeler le comité international en disant on va prendre en charge trois camarades. Et donc c'est ces trois listes, trois femmes dont les coordonnées nous ont été transmises. Voilà comment. À l'échelle nationale, ce comité international de défense des femmes afghanes envoie de l'argent là-bas, justement parce que lorsqu'elles sont en clandestinité, elles n'ont pas de ressources. Et il y a ce qu'on appelle des maisons de protection qui sont des maisons clandestines avec tout un réseau, mais y compris des militants hommes, notamment de la gauche radicale afghane, qui est une organisation qui continue d'exister, qui est mixte donc, hein, qui mène la bagarre en Afghanistan, dont les militants sont membres du mouvement spontané des femmes afghanes. Voilà le lien.
D'accord. Vous les avez jamais entendus, leur voix ?
Non.
Non. Non.
Elles doivent même peut-être pas avoir de téléphone pour se protéger, parce que bon, le téléphone, tout est traçable.
J'avoue que pour des raisons de sécurité, j'avais demandé par exemple d'avoir des photos pour les pancartes et tout, même y compris ça, nationalement, on n'a pas voulu me le donner au niveau protection, tellement la répression est forte, et très probablement dans la communauté afghane en France, il y a des relais des talibans, donc il faut faire très 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 attention, c'est un régime qui flique énormément, donc il faut être très très prudent, y compris pour les défendre.
On va écouter quelques chants, un très court son de chants de femmes afghanes que j'ai trouvé superbe sur Internet. Et puis on revient pour parler du cadre juridique et des actions qui vont être possibles en France. A tout de suite.
Sky's not blue. بنام زن بنام زندگی رها شویم ز طاق بندگی شب سیاه ما سحر شود تمام تا زیان ها تبر شود که با جواب نها صدا شویم من و تو و دیگر دوباره ما شویم.
Eh bien, c'est sur ces belles voix afghanes qu'on se retrouve, toujours avec Léonie en studio, en régie. Voilà, en régie. Et dans le studio, je suis Nathalie et je suis en compagnie de Pierre Riefstein de la CIMAD et de Jean-Marc Froire et Alix Bakineau qui sont venus nous parler donc de ce combat pour ces trois femmes afghanes. On va peut-être dans la deuxième partie de cette émission parler justement de ce qui est possible de faire dans ces cas-là, dans le cadre juridique. Est-ce qu'on peut avoir une aide probable ou imaginaire de l'Union européenne, enfin tout ça. Est-ce que, par exemple, notre gouvernement est sensibilisé au sort de ces trois femmes ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas, dans l'ordre, peut-être voir quels sont les recours réels qui peuvent exister pour aider ces trois femmes. Pierre, tu sais un petit peu ce qui pourrait être possible ?
Non, je suis pas sur le cas précis de ces femmes. Je n'ai pas d'informations particulières. La difficulté, il y a deux étapes que je vois. La première étape, c'est qu'elles sortent d'Afghanistan. Et pour la sortie d'Afghanistan, je pense que la France est assez démunie. Ça, ce n'est que l'État français qui pourrait éventuellement arriver à leur donner des moyens. Mais il faut arriver à sortir. D'ailleurs, une femme ne peut sortir d'Afghanistan que si elle est accompagnée d'un homme. Son père, son mari, son frère, mais elle ne pourra sortir. Mais les femmes de réfugiés que nous connaissons en France arrivent à sortir aujourd'hui. Hein, on arrive. L'État taliban est très corrompu, c'est-à-dire que pour pouvoir venir en France pour rejoindre son conjoint, par exemple, il faut avoir un passeport. Eh ben, on achète les passeports aujourd'hui en Afghanistan sans problème. Il y a quelques mois, ça valait entre 1 000 et 2 000 dollars. Ça dépend des cas de figure, mais la somme aurait baissé ces derniers temps. Les femmes arrivent, mais c'est des femmes. Moi, je ne connais pas de femmes qui soient vraiment recherchées par les talibans. Dans le cas présent, on parle de femmes qui sont recherchées. Donc, on est dans une configuration particulière et je pense que là, elles doivent fuir dans la clandestinité. Le pays dans lequel transitent la plupart du temps les Afghans, c'est l'Iran, puisque c'est à Téhéran. Il n'y a pas d'ambassade de France ni de représentant de l'État français en Afghanistan, puisque l'État français ne reconnaît pas le régime des talibans. Donc les Afghans transitent par l'Iran et en Iran, ils peuvent déposer une demande d'asile. Alors, officiellement, la demande d'asile, on la dépose quand on arrive en France. Un étranger qui veut obtenir le statut de réfugié, il devrait la déposer en France. Dans des cas exceptionnels, on peut arriver à déposer sa demande directement dans une ambassade de France à l'étranger. Mais c'est des cas exceptionnels. Mm-hmm. Donc ça, si la France veut vraiment les soutenir, il faudra qu'elle accepte que l'ambassade de France à Téhéran, par exemple, puisse déposer la demande, qu'elle puisse déposer leur demande d'asile dans l'ambassade à Téhéran. Mm-hmm.
Donc c'est compliqué.
Donc de toute façon c'est compliqué, mais la première étape qui est l'étape la plus compliquée pour elles, c'est qu'elles sont dans la clandestinité et qu'elles puissent sortir du territoire. Mm-hmm. Donc ça va être par le Pakistan ou par l'Iran. Mm-hmm. J'ai cité beaucoup l'Iran, ça peut être aussi par le Pakistan, mais actuellement les Pakistanais étaient très durs avec les Afghans et en fait ont déconseillé de passer par le Pakistan de ce qu'on avait comme information.
Il y a même une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent ou au Pakistan ou en Iran, le délai d'instruction par l'ambassade ou consulat de France dans ces pays-là est supérieur au droit au titre de séjour qu'elles obtiennent des autorités afghanes, des autorités iraniennes ou pakistaniennes. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez un droit de séjour de 3 mois, puis que la France met 6 mois pour instruire le dossier, au bout de 3 mois, vous êtes dans la clandestinité et expulsable. Et il y a déjà des cas de femmes qui ont été donc réenvoyées dans les mains des talibans. Je ne sais pas si vous l'imaginez, c'est le sort qui doit être réservé à ces femmes-là. Hein, voilà.
Au niveau européen, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de structure européenne qui peut les prendre en charge.
La Cour européenne de justice a publié un texte comme quoi toute femme afghane qui demandait le statut n'avait pas besoin de justifier autrement que en disant qu'elle était une femme afghane et qu'il était impossible qu'elle vive dans son pays, donc pour obtenir le statut d'asile. Donc ça a été traduit par la Cour nationale du droit d'asile en France, qui effectivement, si une femme afghane dépose une demande d'asile, elle sera étudiée très très positivement, ça c'est sûr. Mais ça c'est l'étape ultime, hein. La question c'est d'arriver jusque-là.
Ouais,
quoi.
Ouais. Le gouvernement français, il est sensibilisé à ces trois femmes. Vous avez eu un contact, je ne sais pas, avec les ministères, non.
Pas encore. Je pense que d'abord, alors, on s'appuie pour le moment sur le discours que Bayrou a fait lorsqu'il est devenu Premier ministre, où dans son discours, il évoque la situation des femmes afghanes comme dramatique, anormale, etc. et tout. Et pour le moment, on a fait une pétition qui a recueilli plus de 175-180 signatures, avec dedans, à titre individuel, bien évidemment, des militants du Parti des Travailleurs, des syndicalistes de la CGT, la Confédération Paysanne, des membres de la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International, CIMAD, Mouvement de la Paix. Voilà, on en est à ce stade-là, on a mis cette pétition en ligne, on donnera la référence tout à l'heure, le lien. Et on compte pour le moment aussi appeler à une réunion de l'ensemble des organisations ouvrières et démocratiques et de défense des droits de l'homme et féministes du 34 pour élargir cette bataille hein, sur le simple mot d'ordre droit d'asile pour Osra, Rouena et Farzia, point. Et à partir de là aussi, demander un entretien au préfet afin qu'il utilise ses pouvoirs de représentant du gouvernement dans le département pour obtenir... Alors je crois que c'est un visa de transit, mais après si vraiment l'administration française veut mettre le paquet, moi je suis persuadé que c'est jouable pour ces trois personnes. J'ai même déjà réfléchi aux réparties que je pourrais avoir avec le préfet, par exemple, de lui dire que dedans il y a un médecin. On a besoin de médecins. La deuxième est enseignante. Et la troisième, si elle est simplement, entre guillemets, défenseur des droits de l'homme, ben ça, c'est une profession qui deviendra peut-être de plus en plus utile dans notre pays par les temps qui courent.
Visa, c'est la France. Pour expliquer bien, c'est la France qui doit donner le visa à ces femmes, c'est ça? Il faut qu'il y ait un papier, un document
De transit.
Il faut qu'elles obtiennent un visa sur un passeport ou sur un document de voyage pour pouvoir prendre un avion de l'endroit où elles sont et arriver en France. Elles ne peuvent pas partir directement de Kaboul à Paris. De toute façon, il faut passer par un pays intermédiaire.
Donc l'idée, c'est déjà de les exfiltrer plutôt par l'Iran que le Pakistan, si j'ai
plutôt
bien compris.
Plutôt par l'Iran que par le Pakistan. Actuellement, il y avait trois pays. Il y avait même l'Inde qui était les trois pays qui étaient autorisés par France Visa pour obtenir des visas pour des Afghans. L'Inde, c'est très, très réduit. C'est pratiquement impossible et c'est très, très loin. Il faut quand même se considérer que ça vaut très cher, même pour un Afghan, pour aller à Téhéran. Et l'Islamabad, c'est encore plus cher. Mais oui, effectivement, la première étape, c'est l'exfiltration du pays, quoi.
Et ça, il n'y a que les comités de soutien qui peuvent financer, justement, aider à financer ça, parce que je pense qu'elles n'ont pas l'argent aussi pour ça.
Justement, le Comité international des droits des femmes afghanes, sur son site internet, propose de faire des dons pour soutenir ces femmes. Donc le site, c'est defendafghanwoman.org. Et comme ça, si jamais il y a des personnes qui veulent faire des dons, elles peuvent le faire directement.
C'est Léonie qui est Madame Podcast, elle nous fera ça avec toutes ses belles adresses. Voilà.
Ce comité, il est international, puisque dedans, il y a des militantes algériennes, allemandes, belges, du Bénin, du Chili, des États-Unis, de France, du Maroc, Mexique, Italie, Hongrie, Haïti, Roumanie, Philippines, Pakistan. Et au Pakistan, ce qui est important, c'est une Jamil Rubina, qui est une des grandes syndicalistes pakistanaises, qui est donc coprésidente de ce comité.
Donc pour l'instant, on attend déjà qu'elles soient sorties. On sera prévenu tout de suite quand elles sont sorties
Mais on vous dira si on y arrive, oui.
Hein, si on arrive à les faire sortir, voilà, il faut absolument le faire savoir et le faire savoir vite. Jean-Marc, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à avoir envie, pour en venir au début de l'émission, pour cette rencontre, l'appel, tout ça, qu'est-ce qui tout d'un coup a fait que ça soit une priorité dans vos vies et que Jean-Marc, t'es dessus tout le temps en ce moment, quoi?
Moi, je suis militant politique d'un parti internationaliste, donc j'ai cette fibre de l'internationalisme. Et j'ai été à un meeting de mon parti à Paris où il y a une afghane de ce parti, du mouvement des femmes afghanes, qui a pris la parole et ça m'a particulièrement pris au trip, quoi. Je veux dire, parce que sans tomber dans l'humanitaire, des femmes qui mènent un combat comme ça, moi, je peux pas laisser à côté, voilà. Donc, on s'est mis à plusieurs camarades de notre parti au départ, et auxquels se sont associés d'autres militants, je tiens à le dire, notamment là où j'habite, dans les Hauts-Cantons, c'est des dames de la Ligue des droits de l'homme, c'est la Confédération paysanne, un groupe féministe dans le Minervois, les responsables de la petite revue La Paix Gazette, je ne sais pas si vous connaissez, je fais une petite pub au passage comme ça, avec qui, bon, on n'a pas forcément un accord idéologique total, mais bon, vraiment, on a pris cette affaire en main et à cœur pour vraiment arracher le droit d'asile pour ces trois femmes, parce que je suis même quasiment persuadé, je sens que quand on dit qu'elles ont été torturées et compagnie, que ça ne s'arrête pas à ça, vu les salopards qui sont de talibans, c'est... Le viol, c'est aussi une arme classique de ce type de personnage. Hein, voilà.
Pierre, le fait que il y ait des regroupements de forces et de mouvements, c'est important pour... Ça peut jouer, justement, d'être nombreux dans un combat comme ça.
De toute façon, pour faire pression, ne serait-ce que sur l'État français, pour que lorsque la question sera posée d'obtenir un visa, l'État français aille fasse une procédure très rapide, puisque les procédures peuvent être très longues. Et donc, l'important de faire connaître le nom de ces femmes et de faire connaître le besoin qu'il y a de leur donner le droit d'asile fait que la procédure, après, au niveau national, devrait être beaucoup plus rapide. Quoi. C'est ça qui est l'objectif. Quoi.
À la CIMAD, vous travaillez avec quelles autres associations, par exemple, régulièrement pour...
On ne travaille pas avec des associations, enfin, je n'ai pas de nom d'association spécifiquement par rapport à l'Afghanistan.
On voit en contact, par
mais on est avec toutes les associations qui ont été citées, la Ligue des droits de l'homme, entre autres, ou autres, beaucoup d'associations par rapport à ce besoin. Il y a un comité des Afghans de Montpellier, par exemple, qui existe, hein, qui nous aide aussi lorsqu'on a des cas de figure, parce que c'est souvent des dossiers compliqués, hein, les Afghans, pour nous aider à avancer, à obtenir des papiers qui sont quasi impossibles, très difficiles à obtenir parfois.
C'est toujours des réfugiés politiques, les Afghans ?
Les Afghans sont toujours réfugiés politiques. Oui, actuellement, les Afghans obtiennent le statut de l'asile ou de la protection subsidiaire pratiquement systématiquement en France.
Et vous êtes en contact avec eux, Alix ? Avec ce comité des Afghans sur Montpellier, par exemple ?
Non.
Mais ça va se faire. Mais
ça va se faire.
Justement.
C'est la magie de Radio FM+, ça doit créer des rencontres formidables.
C'est pour ça.
Non, mais c'est vrai que plus on est nombreux, voilà, plus on porte la voix et plus ça a des chances d'aboutir. Hein, voilà. Après, je comprends la complexité. Pour être pratico-pratique, comment vous rejoindre ?
Eh bien, justement, pour nous rejoindre... on a donc le mail du comité 34 de défense des femmes afghanes qui est comité34-6 femmes afghanes, donc au pluriel, femmes afghanes.
Tout lié.
Ouais, tout lié. @outlook.fr.
D'accord.
Comité 34.
Super.
Donc là, si vous voulez participer, avoir des informations, n'hésitez pas à nous écrire. Et on a aussi donc la pétition qui est sur change.org. Donc c'est change.org/femmes afghanes au pluriel.
Sur Facebook ?
Sur Facebook.
Il y a quelque chose sur Facebook aussi ?
Non. Sur Facebook, on n'a pas encore fait de page.
Non, mais c'est voilà, faut essayer d'aller partout, quoi. De se montrer partout, bien sûr.
Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de personnes. Et ensuite, et donc là, vous pouvez signer la pétition sur Change.
C'est cette pétition, Jean-Marc, où tu disais qu'il y avait 200 personnes.
Non, on a commencé par une pétition papier.
D'accord.
Et on a publié les 175 premiers signataires sur la pétition en ligne.
C'est ça.
Et ce qui m'a, pas surpris, mais qui m'a fait plaisir sur les 175 signataires, c'est que vraiment, ça a dépassé très largement
la sphère politique
dans laquelle on est habituellement. Et avec... il y a des coiffeurs, il y a des agriculteurs, il y a des...
D'ailleurs, c'est une question qui peut se poser, parce que la CIMAD, je me rappelle, il y a un an, il y a eu une attaque frontale contre la CIMAD et son politique. Enfin, je me rappelle arriver à un synode où on en avait parlé, parce qu'il y avait le stand de la CIMAD qui était là. Il y a quand même eu... Est-ce que c'est un poids d'être issu des partis des travailleurs? Est-ce qu'on a intérêt à rendre le combat le moins politique possible pour qu'il soit ouvert? C'est un débat, ça. C'est un petit peu un débat rapide à avoir en 3 minutes, mais qui est important quand même. Pierre, c'est cette offensive politique, je ne me trompe pas, il y a eu quand même quelque chose.
La CIMAD est perpétuellement attaquée, régulièrement par notre gouvernement actuel et par d'autres, tout un tas d'organisations d'extrême droite plus ou moins affichées. Ça arrive, il y a encore un média qui vient de publier, qui s'appelle Frontières, qui vient de publier des atrocités, où la CIMAD est citée à toutes les pages, à peu près sur 60 pages. Donc, après que le combat soit politique ou pas, la CIMAD, on essaye de l'avoir d'abord en tant qu'association et un peu transpolitique, mais c'est sûr qu'on a des connotations qui font qu'on est ciblé souvent.
Je dirais que ça fait partie du jeu, c'est pas ça qui nous fait peur. Oui. Nous, on en appelle ce qu'on appelle un véritable front unique des organisations, puisque en posant la question qui peut se dire démocrate, qui peut se dire défendre les droits démocratiques aujourd'hui et accepter de telles situations sans bouger. Et de prétexter que ce serait tel ou tel parti qui a porté le début de cette bataille pour ne rien faire, serait une désertion par rapport à ce combat. Voilà, c'est comme ça qu'on voit. C'est pour ça qu'on va organiser très bientôt une convocation à l'ensemble des organisations démocratiques et syndicales pour voir ce qu'on peut faire ensemble sur le mot d'ordre tout simple, droit d'asile pour ces trois femmes. Pas plus, pas moins. Mais
c'est le mot de la fin.
Mais c'est beaucoup.
C'est formidable. Merci, merci Jean-Marc d'être descendu des hauts cantons pour venir nous en parler. Merci Alix aussi de ta présence. On vous tient au courant. Et merci à Pierre de nous avoir rejoints ce matin. Et je crois que vous avez des choses à vous dire. On vous laisse ensemble. À très bientôt. Bah, à demain pour une autre matinale. Je ne sais pas, demain c'est quoi? Jeudi, c'est quoi la matinale de demain? On ne sait pas. C'est la surprise de 10h10. Artex, ah bah si, c'est super, c'est nos copains d'Artex.
C'est Gamme
avec les ressourceries Artex. Ouais. Et ça sera Jean-François qui recevra, Audrey, voilà. Bonne journée à tous et à très vite, au revoir.